Chapitre 7 Un drame à bord. L'étoile polaire était un yacht à vapeur de 600 tonneaux. Sa machine d'une force de 200 chevaux était à chaudière tubulaire et à tirage forcé. En pleine marche, le yacht filait facilement 28 nœuds. En outre, le yacht était pourvu d'un appareil de TSF perfectionné par Goel Mordax et Ursel Stroheim. De cette façon, les touristes demeuraient en communication constante avec les ateliers du sous-marin et étaient tenus chaque jour au courant de ce qui se passait à la Girolata. Le capitaine, M. de Noirtier, était un excellent marin et il avait maintes fois donné des preuves de son sang-froid et de son habileté. Il avait lui-même recruté les marins de l'équipage de son yacht et il n'avait admis à bord de l'étoile polaire que de vieux loups de mer d'une fidélité et d'un dévouement à toute épreuve. L'étoile polaire, depuis 2 jours déjà, avait quitté le golfe de la Girolata et commencé sa croisière. Après avoir doublé le cap Corse, le yacht visitait, l'une après l'autre, les îles pittoresques et à demi sauvages, situées entre la Corse et la péninsule italienne, Capraja, Elbe, Pianosa, Giglio et Monte Cristo. Le temps était magnifique et la mer si calme que le yacht semblait glisser sur un lac d'huile. La vie à bord s'écoulait dans un véritable enchantement. Edda et Goël contemplaient le magnifique panorama du ciel, de la mer azurée et des îles en fleurs. Et leur amour s'augmentait de la magnificence de ce splendide décor d'une poésie grandiose. Ursel Stroheim travaillait et discutait, heureux du bonheur de ceux qui l'entouraient. Quelquefois, il s'absorbait dans une partie d'échecs avec le capitaine de Noirtier, qui le battait invariablement. Coccardo chantonnait en rêvassant à la confection de quelques plats inédits. Mademoiselle Segui taquinait le pauvre monsieur Lepic, qui seul au milieu de l'allégresse générale ne riait pas. Pauvre monsieur Lepic, il n'avait pas le pied marin, le cœur encore moins. Monsieur Lepic était malade, malade à en rendre l'âme. Il geignait et se lamentait continuellement. « Allô, grand enfant, disait mademoiselle Segui, du courage, c'est qu'un moment à passer. » « Mais du courage j'en ai, mademoiselle, je vous assure que j'en ai, mais seulement... » Et le reste de la phrase se perdait dans un bredouillement confus. « Monsieur Coccardo, criait la jeune fille, un peu d'éther et de citron pour monsieur Lepic. » Et Coccardo, le sourire aux lèvres, apparaissait, un plateau à la main. « La citronnade demandée, voilà !» Cependant, M. Lepic finit par triompher de son ridicule malaise. Quand on passa au large de Monte Cristo, il était tout à fait rétabli. Seulement, quand on voulut l'emmener dans l'île pour récolter quelques insectes, il refusa énergiquement. « Donc je suis bien ici, j'y reste », répétait-il. « Mais pourquoi ne voulez-vous pas descendre ?»« Ben, c'est qu'il faudrait me rembarquer, eh bien... » Eh bien, j'ai peur d'une rechute. Malgré tout ce qu'on peut dire de lui, malgré l'envie qu'il avait lui-même de descendre à terre, il s'entêta dans son refus et demeura à bord, au grand amusement d'Ursel Stroheim et de ses amis. Le matin même, grâce à l'appareil de TSF qui reliait l'étoile polaire au chantier du Jules Verne, Pierre Auger, l'homme de confiance d'Ursel Stroheim, avait donné des nouvelles des travaux. Goël apprit avec plaisir que les dispositifs de l'aménagement intérieur étaient poussés avec la plus grande activité. En même temps que l'on mettait la dernière main au capitonnage, à l'ameublement, aux dorures et aux peintures de la partie habitable du Jules Verne, on commençait déjà à embarquer dans les soutes, les vivres et les produits chimiques indispensables au fonctionnement des machines. Ursel Stroheim et Goël voyaient avec joie approcher la date de leur premier voyage d'exploration sous-marine. L'excursion dans l'île devenue à jamais célèbre depuis le roman d'Alexandre Dumas à Monte Cristo, fut des plus gais. On pêcha dans les petits golfes de l'île, on chassa sous les forêts de citronniers et de lentisques sauvages. Mais Edda et Gaël cherchèrent vainement dans les broussailles l'emplacement de la caverne indiquée par l'abbé Farah. Quand ils regagnèrent l'étoile polaire, ils aperçurent M. Lepic qui se promenait avec agitation sur le pont. « Merveilleux navire que votre yacht, M. Ström, » dit-il au Norvégien en lui tenant une énergique poignée de main. « Ah, alors vous commencez à vous habituer aux excursions en pleine mer. Bon, »« Il s'agit bien de cela, » répliqua vivement le naturaliste. « Venez voir ce que j'ai trouvé en faisant une petite promenade sur la cale et sur le pont. » Et il entraîna tout le monde dans sa cabine. Là, sur la table, des bouchons alignés comme des soldats à l'exercice supportaient des insectes de formes diverses, le corps traversé d'une épingle. « Hein, que pensez-vous de cela ?» dit M. Lepic avec orgueil. Vous revenez les mains vides et moi, sans me déranger, j'ai fait une chasse miraculeuse. La faune entomologique de l'étoile polaire est désormais déterminée et classée. Oh, quelle horreur ! S'écria Mademoiselle Segui. Nous faire voir ces ignobles bêtes avant de nous mettre à table. Ignoble est le mot, fit M. Lepic. Celle-ci bizarrement découpée, le caquerlac orthoptère. Puant et répugnant, cousin germain des blattes, dont voici de superbes spécimens. Oh, celui-là, c'est l'orthrène des musées. Cet autre, l'attagène des pelleteries. Tous deux grands destructeurs de fourrure. Mais qu'est-ce que cela ? Demanda Edda en désignant un animal vermivore de quelques millimètres de long, collé sur une bande de papier. Oh, ça, c'est la larve du dermeste du lard. Je l'ai trouvé sur une couronne dans la soute aux vivres. Diable, fit Ström, voilà un consommateur de charcuterie dont il faudra purger le navire. Ainsi que des blattes et des cacerlacs, répondit M. Lepic, si toutefois vous le pouvez. Il présenta ensuite toute une collection de dévastateurs. Ceux-ci s'attaquaient au cuir, ceux-là au bois, d'autres dévoraient les vêtements. « Mais ce que j'ai trouvé le plus curieux, dit-il en terminant le naturaliste, c'est un champignon qui me paraît nouveau. Il ressemble un peu à la clavaire ou menotte et se développe sur le bois. Je l'ai recueilli plusieurs exemplaires. » En même temps, il exhibait, aux yeux de ses amis étonnés, deux ou trois boulettes déchiquetées, desséchées et noirâtres. « Bon, je ne l'ai pas encore déterminé, fit-il, mais je serais heureux si Mademoiselle Segui voulait bien accepter le parrainage. »« Oh, halte-là !» s'écria tout à coup M. de Noirtier. « Ne l'écoutez pas, mademoiselle. Si M. Lepic veut flairer d'un peu près son champignon, il reconnaîtra sans doute qu'il a affaire à une vieille chique de tabac. » Effaré, M. Lepic laissa tomber ses prétendus cryptogames et s'élança sur le pont. Son départ fut accompagné de formidables éclats de rire. Après le repas, où les découvertes de M. Lepic servirent de thème à une foule de plaisanteries, on passa sur le pont, où les tentes de toile écrues installées pendant le jour avaient été relevées et chacun prit place sur des fauteuils pliants. Ursel Ström offrit un régalia à M. Lepic et à Goël. L'étoile polaire marchait à petite vapeur. La brise attiédie de la Méditerranée était chargée de capiteuses effluves émanées des fourrés de myrtes et de citronniers de l'île de Monte Cristo, dont on voyait les sommets d'un violet pâle diminuer lentement au fond de l'horizon qui illuminait les rayons argentés de la pleine lune. L'heure était exquise et unique. Tous s'abandonnaient à leur rêverie, bercés par le ronron monotone de l'hélice, par la douceur d'un roulis et d'un tangage à peine perceptible. Goël avait pris entre ses mains une des fines mains d'Edda. Ce religieux silence fut tout à coup troublé par la voix aigre de Monsieur Lepic. Avec tout ça, dit-il, vous ne vous avez toujours pas raconté, Monsieur Stroheim, comment vous avez fait votre fortune. La voilà bien la gaffe, murmura Mademoiselle Segui en donnant un vigoureux coup de coude au malencontreux questionneur. Edda et Goël se regardèrent, brusquement tirés de leurs songes. Puis, en voyant la mine du malheureux Monsieur Lepic, ils eurent un violent accès de rire, auquel Ursel Stroheim fut le premier à se joindre. « La question de notre ami Lepic, répondit-il, est toute naturelle. Et je suis très heureux de cette occasion qui va me permettre de vous raconter mes débuts, dont, en véritable parvenu, je suis devenu très vaniteux. En Norvège, dans notre mélancolique pays de neige et de fjords, nous naissons hommes d'action. À la mort de mon père, j'avais 17 ans. Il ne me vint pas à l'idée, comme cela fut arrivé à beaucoup de jeunes Français de mon âge et dans ma situation, de solliciter un emploi dans une administration de l'État, une sinécure peu rétribuée qui m'eût permis de mener une existence routinière et sans tracas. Je me lançai immédiatement dans le commerce des bois de Norvège. Je me mariai, j'installai plusieurs scieries, un comptoir à Bergen et l'autre à Drontheim, et pendant quelque temps, mes affaires prospérèrent. Un accident que je ne pouvais prévoir, l'incendie de mon entrepôt principal, va me plonger dans la misère. Ici, la voix de Sandström se fit plus grave, comme attendrie par l'écho d'une tristesse. La mère d'Edda mourut, tout m'accablait. Je réunis les débris épars de ma fortune. Je confiai ma fille aux soins d'une vieille parente et je m'embarquai pour l'Alaska. Je n'avais alors que 25 ans. J'étais à l'âge où, avec de l'énergie, on peut recommencer une existence, se refaire une situation. À cette époque, l'Alaska était encore fort peu connue. Quelques rares aventuriers parcouraient seuls ces solitudes immenses. Désespérant de jamais rétablir ma fortune dans ce pays maudit, je voulus me rendre à la baie d'Hudson pour faire le commerce des pelleteries. 20 fois j'ai failli périr. Je rencontrai une tribu d'Esquimaux, au dire desquels ils se trouvaient beaucoup plus au nord et placés d'une richesse incalculable. Alors je me joignis à ces pêcheurs nomades, buvant comme eux l'huile des phoques et le lait des rennes, traversant parfois dans un traîneau attelé de chiens esquimaux des centaines de kilomètres de plaine glacée, sans un arbre, sans une herbe, hanté seulement par l'ours blanc, le renard et le lièvre polaire. « Avez-vous eu l'occasion de recueillir quelques insectes de ces régions ?» demanda Monsieur Lepic. « Ma foi, non, répliqua Ursenström. Mais en revanche, j'ai découvert de magnifiques gisements aurifères sur la côte occidentale du Groenland, me contentant d'emporter cette première fois quelques lingots. Alors j'y suis revenu l'année d'après avec une expédition bien organisée. Voilà, telle est la source de ma fortune. « Mon père oublie de dire, fit Edda, qu'il fit de ses trésors une large part à tous ceux qui l'avaient accompagné. Mais cela était d'une justice tout à fait élémentaire, repartit le Norvégien. On n'est pas digne d'être riche lorsqu'on fait de ses richesses un emploi égoïste. On ne peut pas vous faire ce reproche, dit Goël. Outre la construction du Jules Verne, vous avez, au vu et au su de tout le monde, encouragé et commandité des centaines d'entreprises utiles au bien-être de l'humanité. Ursel Stroheim en convint. Mais ce qu'il y a de plus curieux, ajouta-t-il, c'est que beaucoup d'entreprises conçues par moi dans un but philanthropique et dont j'avais cru le capital sacrifié m'ont donné d'excellents résultats au point de vue financier. l'assainissement des marécages de la Sardaigne, par exemple. Et il en sera de même du Jules Verne, construit par notre cher Goël, et de l'exploitation industrielle des richesses sous-marines, s'écria Edna avec enthousiasme. Goël ajouta gravement: la mer, qui couvre les deux tiers de la surface du globe, renferme des milliards et des milliards sous forme de mines minéraux, de quoi décupler, centupler même, le bien-être et la puissance humaine, de quoi faire disparaître à jamais de la surface de la terre le vice, la misère et la laideur. C'est la science souveraine qui doit donner à l'homme le bonheur auquel il a droit par son intelligence et les efforts de son travail séculaire. Tout le monde était retombé dans le silence. Chacun entrevoyait pour l'avenir des sociétés et des peuples des horizons grandioses. Petit à petit, on avait regagné les cabines. Edda et Goël, demeurés les derniers, finirent par se retirer aussi. Il ne resta sur le pont que Coquardeau, qui, couché de tout son long à l'avant sur un rouleau de vieille voile, avait trouvé la nuit si belle qu'il avait résolu de la passer sur le pont. Cependant, Edda, après avoir vainement cherché le sommeil, était remontée sur la dunette. La brise du soir rafraîchissait ses tempes enfiévrées. Elle s'enivrait de calme et de solitude, de cette belle nuit transparente et bleue, de cette ombre pétrie de lumière, où de petites vagues d'azur que la lune couronnait d'un faible panache d'argent venaient bruire doucement contre la muraille du navire. Sur le pont de l'étoile polaire, on n'entendait aucun bruit. À l'avant, non loin de Coquardeau, les deux hommes de quart dormaient, enveloppés dans leur caban de gros draps. Tout à coup, Edda tressaillit. Il avait semblé entendre un grincement le long de la paroi de bâbord. « Bah, songea-t-elle, c'est quelque chaîne que l'on aura oublié d'amarrer. » Et presque au même moment, elle crut entendre ramper avec précaution non loin d'elle. Edda était brave. Elle s'avança pour voir d'où provenait le bruit suspect. Mais à peine avait-elle fait un pas que trois ombres se dressèrent brusquement et fondirent sur elle. La jeune fille poussa un cri. Déjà une main se posait sur sa bouche. Elle se trouvait réduite au silence. En un clin d'œil, elle fut bâillonnée et garrottée. Et ces étranges ravisseurs l'emportèrent dans la direction de la coupée de bâbord. Cependant, si peu de bruit qu'eût produit cette lutte, cela avait suffi pour tirer Coquardeau de sa paresseuse somnolence. « Hein, quoi ? » s'écria-t-il brusquement, sans comprendre encore de quoi il s'agissait. Et sans se donner le temps de réfléchir à ce qui se passait, il se précipita au secours d'Edda, au moment précis où un des bandits, un homme aux formes athlétiques, descendait le corps de la jeune fille par l'échelle de la coupée. « Au secours ! Au secours !» s'écria Coquardeau de toutes ses forces. Et il décocha un formidable coup de tête à l'un des ravisseurs. Mais le troisième bandit saisit l'infortuné cuisinier par la ceinture et le précipita dans la mer. Une fois encore, on entendit la voix de Coquardeau, puis tout rentra dans le silence. Vainement les hommes de quart réveillés par les appels de cuisiniers, vainement tout l'équipage, Ursenström, Goël et Monsieur Lepic, mirent-ils les embarcations à la mer. Les petites vagues argentées couraient tranquillement sous la lune. Aucun navire, aucune terre n'était en vue. Edda, Coquardeau et leur ravisseur s'étaient évanouis, sans laisser la moindre trace de leur inexplicable disparition.